Arrivé en haut, hébété, tremblant de tous ses membres, il se demande encore comment il a réussi à s'en sortir. Il répète sans cesse que ce n'était pas son jour, qu'il doit y avoir un bon Dieu. Pendant ce temps, les hommes continuent à s'échiner pour remonter ce qu'ils peuvent de pierre. Appelant et criant comme des sourds, ils essayent de maintenir le contact entre la surface et les deux ensevelis. Même s'ils n'ont aucun signe de vie, ils font semblant de croire qu'ils sont vivants et s'adressent à eux pour savoir où ils peuvent être. Les gars commencent à avoir des difficultés pour dégager les blocs les plus gros. La pluie rend très instable et glissante les roches empilées les unes sur les autres. Les doigts deviennent gourds par le froid. La pierre entaille les mains nues. Les hommes ne peuvent plus bouger grand-chose. D'autant qu'un deuxième éboulement, moins important que le précédent, se produit, rendant presque impossible la continuité des opérations. Le maire du bourg a averti les pompiers de Brive. Il est aussi patron carrier. Et c'est contre mauvaise fortune qu'il les a prévenus. En général, les patrons n'aiment pas qu'on vienne voir de trop près ce qui se passe chez eux. Surtout quand ce n'est pas à leur avantage. Mais là, c'est un cas de force majeure. 19h, toute cloche sonnante, les pompiers arrivent. Il fait encore jour, mais il faut faire vite, ça ne va pas durer. Les premières constatations ne sont pas réjouissantes. D'après eux, il est possible de percer une galerie à partir du puits d'à côté. Seulement, cela va prendre beaucoup de temps, et c'est ce qui manque. D'autant que le matériel dont ils disposent est réduit et pas adapté. Il pleut toujours, sans arrêt, et le risque d'éboulement est permanent. Ça fait maintenant 7h que les gars sont en dessous. Tout le monde espère qu'ils doivent trouver le temps long. Cela prouverait qu'ils sont encore vivants. À l'arrivée de la nuit, on arrête la recherche. C'est trop risqué pour continuer. Les volontaires restent sur place pour ne pas les abandonner. Parler avec Perrin et Coudert, faire du bruit, garder une présence toute la nuit par roulement. Rester sur les lieux, c'est aussi risqué. Un éboulement peut survenir à n'importe quel moment et les piéger eux aussi. Des éboulis en conséquences importantes se produisent de temps en temps et effacent peu à peu le travail de la journée. Quand le jour se lève, il pleut toujours. Le moral des familles est sérieusement entamé. Les deux gars restés en dessous sont tous les deux pères de famille. Même si leurs femmes ont été contraintes d'accepter les risques qu'ils encouraient, elles ne pourront jamais accepter ça. Personne ne peut accepter ça. À l'aube, les secours reprennent, lentement, difficilement, délicatement. Les gens du village viennent nombreux voir ce qui se passe. Certains par curiosité, d'autres pour prêter main forte. Pierre après pierre, bloc après bloc, les hommes remontent ce qui s'est effondré dans la nuit. Un vrai travail de fourmi. Les pompiers ne sont pas en reste. Devant l'étendue de la tâche, toutes les mains sont utiles. Si les hommes peuvent être fatigués, épuisés, les machines sont aussi capricieuses. Dans la matinée, un pompier est resté coincé dans le tonneau, à près de 40 mètres de la surface. Le truc s'est arrêté, il y a eu une panne de courant. Il a fallu le hisser avec une corde. Il n'était pas fier, pour lui aussi c'était la galère. À propos des grutiers et du matériel, je me souviens encore en 1908, en octobre, chez Dubourg, le maire patron carrier. Le mécano de sa grue s'est fait choper le bras par les engrenages. Il ne tenait presque plus à l'épaule. Plus tard, dans le même mois, un autre grutier. Pareil, en voulant décoincer le mécanisme, celui-ci s'est d'un seul coup débloqué et son bras s'est fait prendre par les rouages. Il a essayé de sortir, mais au bout du compte, il n'y avait presque plus de viande sur les os de son avant-bras. Ceux qui sont à la grue ne sont pas préservés des risques et ne sont pas tous restés entiers. Que tu sois en haut ou en bas, on pleure de la même façon. Pendant qu'on hissait le pompier, les ingénieurs des carrières ont fait construire un pont au-dessus du trou, une sorte d'étai. Ah, pas pour monter dessus, uniquement pour éviter que d'autres éboulements aient lieu. Par manque de plein de choses, de chance, de compétences, de je ne sais quoi, l'édifice s'écroule. Et hasard malheureux, une grue est sur la trajectoire de l'éboulement. Elle est emportée et termine sa chute au fond du puits, sans oublier, au passage, d'embarquer un mur de soutènement. Le puits d'Urieux ressemble de plus en plus à un tombeau. Les autorités venues en nombre et présentes depuis la veille sont consternées par ce qui vient de se produire. Le sous-préfet Barjou demande à descendre au fond du puits pour mieux se rendre compte de la catastrophe. Et le photographe de la Croix de la Corrèze n'a pas hésité à immortaliser cet acte de bravoure. Le député Bouillaguet est atterré et ne peut que constater l'immense désarroi des familles et l'amertume des ouvriers. Les gendarmes discutent avec les carriers pour désamorcer un début de grogne. Entre les conditions de travail, les risques, le salaire et la considération, les motifs ne manquent pas. Cette deuxième journée n'a rien apporté, sinon que du doute. Plus on remonte les pierres, plus l'espoir de les retrouver vivants s'amenuise, et le lendemain, rien plus. Cela fait 72 heures que les deux carriers sont ensevelis sous les blocs. À l'idée de sortir deux cadavres, les hommes qui restent encore pour déblayer se découragent. Quelques-uns y croient encore. En revanche, ceux qui ont délaissé les fouilles se rassemblent pour contester cette situation. Après les éboulements, la colère fait place à la consternation et les carriers décident de faire grève. On est un certain nombre à avoir créé un syndicat de carriers à Alassac. Avec l'accord de la Bourse du Travail, on établit la liste des revendications et on décide de l'envoyer à la Société des arts d'oisirs d'Alassac. Ce qui nous pousse à le faire, c'est qu'en avril dernier déjà, on râlait contre les conditions de travail. Là, c'est plus possible. La coupe est pleine. Les copains meurent sans que les patrons fassent quoi que ce soit. Ce que l'on demande est justifié, c'est quand même pas grand-chose, juste un peu de dignité et d'humanité. On demande la diminution de la durée du temps de travail, on fait des journées de 12 heures et plus l'été. On veut aussi 10 centimes de l'heure en plus sur les salaires et l'arrêt de la vente du vin sur les chantiers par les patrons. Le groupe des patrons, qui pour une fois se sont entendus et font bloc, n'a pas tardé à répondre. La contre-attaque a été brutale. Pas de négociation.